Qu'est-ce qui vous fait, Sadaf, marcher dans la vie?
Ben, je pense que c'est la vie elle-même hein, qui fait qu'on marche. On ne s'arrête jamais et puis on continue. Et on rencontre des gens, des lieux et la nature aussi. C'est un peu classique, mais ça fait partie de la vie.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Sadaf Orouri, qui participe ès qualité de réalisatrice à l'atelier Produire au Sud, proposé dans le cadre du Festival des Trois Continents, festival qui se déroule à Nantes jusqu'au 1er décembre.
Je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. J'adore rencontrer les gens. Et c'est vrai que je marche beaucoup, même en habitant dans une ville à Montréal. J'habite à Montréal. Et parfois il fait très très froid, mais je préfère de marcher au lieu de prendre le métro parce que j'adore regarder les enfants. Quand il neige, c'est beau. J'aime beaucoup admirer tout ce qui m'entoure.
Le cinéma, pour vous, ça vient d'où ?
Le cinéma est devenu ma vie, si vous voulez. Je ne pense pas que c'est un métier pour moi, parce que ça fait vraiment partie. Je me réveille avec le cinéma et je dors avec le cinéma. En fait, j'ai grandi un peu avec l'art à cause de ma mère qui faisait la peinture. Et puis, j'ai dansé le ballet, et puis j'ai joué du piano. Donc, c'était quelque chose, l'art, ça existait depuis... que je suis née, parce que ma sœur aînée, elle a fait la même chose. Mais après, j'ai étudié la littérature française en Iran. Le cinéma, ça fait partie de nos vies. Hein. C'était comme à la fin de la semaine, avec mon papa, on est allé voir un film. Normalement, c'était les films iraniens. On n'avait pas beaucoup d'accès aux films d'autres pays. Mais au fur et à mesure, j'ai visionné d'autres films. Et finalement, une fois que mes études ont été terminées, je suis allée en France pour étudier le cinéma. Mais j'ai commencé avec art plastique, parce que le cinéma, dans mon université, ça commençait en licence. Donc,
on se concentre juste un petit moment pour ne pas se faire écraser.
Oui. Et les gens sont gentils, donc on peut passer, traverser.
Oui, mais on est sur des passages cloutés. Hein.
Oui. Voilà.
Donc, art plastique.
Art plastique. Et ensuite, le cinéma. Donc, voilà. Je vois, donc, dans mes films, il y a un côté plastique présent. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un background d'art plastique depuis toute petite. Et ça m'intéresse beaucoup aussi.
Vous voyez des pellicules partout.
Oui.
Y compris quand vous allez chez le coiffeur.
Oui, oui, partout. C'est vrai, mais oui. C'est en fait, ma mère, elle rigole toujours parce qu'elle aime beaucoup quand je raconte des histoires. Elle me dit, tu vois des choses qu'on ne voit pas parce que tu racontes d'une façon qui est très intéressante. Elle est adorable elle-même, c'est ma maman. Mais oui, parce que j'ajoute toujours des imaginations. Et un peu de drame à mes histoires, même si c'est documentaire, j'essaie de le raconter d'une façon que ça soit un peu plus fantasy et différent.
On pourrait tenter de raconter une histoire à une personne que nous allons croiser.
On va essayer.
Vous êtes à la fois réalisatrice et productrice.
Oui, disons, j'ai produit mes courts-métrages, mais pas au sens... propre du terme de producteur, si vous voulez, mais parce que j'ai eu des budgets qui venaient d'autres pays et j'étais responsable, donc en tant que producteur, de faire les finances aussi, si vous voulez, le côté de finances de mes films. Donc j'ai fait les deux, oui.
Quel sujet vous passionne et qu'est-ce que vous avez tourné ?
Je travaille beaucoup sur les situations des femmes en Iran. Les enfants aussi, mais plus particulièrement les femmes dans la société iranienne. Donc, j'ai tourné des documentaires. Et là, je travaille donc sur mon premier long métrage qui parle aussi d'une jeune fille iranienne et ses problèmes dans la société iranienne. Et se trouver son identification en tant que femme. Ça fait seulement 2 jours que je suis ici et j'ai l'impression que je suis entourée des amis. Ils sont très très sympas, ils sont très gentils, le groupe. Et j'ai étudié en France et la France est comme mon amour. Donc j'adore la France et les Français, donc voilà, je profite les deux. En même temps le festival et puis rien qu'être avec les Français, ça m'épanouit.
Vous êtes partie au Canada ?
J'ai terminé mes études. Et j'avais plus de carte de séjour, donc c'était pas correct de rester. J'avais la carte de séjour, disons, de Canada, donc je suis partie au Canada.
On n'est pas très accueillant.
Oh là là, non, au contraire. Hein, moi, c'est mon amour, je dis. Bah, on peut avoir un mari, mais l'amour, c'est d'autres choses. C'est toujours le corps qui bat et puis qui réchauffe le corps, etc. Donc la France, c'est mon amour.
Du Sud, qu'est-ce qu'on apprend ?
C'est plus, c'est le marché déjà international qui nous intéresse en ce moment, surtout parce qu'on est dans le processus de financement de projet. Et donc, c'était très intéressant de rencontrer des gens qui travaillent au sein de l'industrie. Qui sont vraiment professionnels, mais à la fois ils sont tellement humbles et gentils qu'ils nous donnent toute leur expérience. Moi j'ai beaucoup appris en fait, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et hier.
Ça n'indique pas des recettes pour séduire un producteur ?
Alors, moi je pense qu'il n'y a pas une recette. Pour écrire un scénario, c'est plus, il faut aller à la rencontre de soi. Et comme il dit Milan Kundera, c'est de trouver moi avec un grand M. Je pense que c'est plus ça, parce que sinon, ça vaut pas la peine si on veut avoir une recette pour écrire.
Mais il y a des fois des repères qui sont plus faciles pour séduire. Les gens qui seraient en capacité de vous accompagner financièrement.
C'est vrai que il y a des grands titres, par exemple, il faut présenter ainsi, il faut que ça soit personnel justement, etc. C'est ça que j'ai appris, comment il faut présenter le projet, plus que le projet soi-même.
Je suis étudiant en histoire, je fais un doctorat. Donc, écrire l'histoire, c'est toujours parler un peu de soi-même, regarder les faits depuis son point de vue, etc., etc. Donc, je ne crois pas qu'on puisse écrire l'histoire autrement qu'avec un je. Alors, même s'il n'est pas écrit, même s'il est à la troisième personne, ils étaient, ils seraient, etc. C'est toujours je pense que, etc., etc. Ça permet de. Voilà mon point de vue sur les choses. Et mon livre, aujourd'hui, Portuguese Style and Luso-African Identity, sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, qui ils étaient, quand, 16e, 17e, des gens qui venaient d'Europe, des nouveaux chrétiens, des juifs, qui étaient partis s'installer pour faire du commerce avec les grands empires africains de Sénégambie. Et donc il s'agit de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils y faisaient et comment se sont-ils transformés au contact des sociétés africaines. Donc une petite histoire dans une grande, celle des contacts entre les continents.
J'adore raconter des histoires à maman.
J'aime bien raconter les histoires à ma maman. comme elle voyage pas, je lui raconte ces histoires-là, quoi. L'histoire de ces gens. Moi, je lis surtout sur l'Afrique de l'Ouest. Alors du coup, comme elle a pas eu accès à l'éducation, à la culture, c'est moi qui lui raconte des histoires sur les grandes connexions et les espaces coloniaux. Voilà.
Ah, oui, c'est très intéressant. Bah, je pense que c'est la même chose un peu avec ma maman. Moi, je raconte toutes les histoires qui m'arrivent dans les autres pays. Et puis, elle est tellement fascinée. Elle m'écoute. Oui, alors continue. Et après, et ensuite, comment il était et comment... Voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qu'ils mangent, les gens?
Alan pourrait être un personnage de vos documentaires?
Oui, mais c'est plus... Alors, parce que tu viens de parler de l'histoire et que tu étudies aussi l'histoire, ça me rappelle peut-être... Parce qu'en ce moment, je lis Milan Kundera beaucoup, beaucoup. Et il a beaucoup parlé des historiennes, comment il raconte l'histoire, comme moi, je pense. Et parfois, il oublie l'essentiel. Quand il parle de la guerre, il parle de la guerre de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. Comment il a touché les gens. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que tu peux être un des personnages de ces romans.
C'est sûr qu'en plus, écrire l'histoire, il y a plusieurs écoles, plusieurs méthodes. Moi, je suis même partisan de ces gens qui suivent les écrits de Carlo Ginzburg sur la microstoria, cette histoire post-marxiste, marxisante, etc., de partir du cas, partir de l'étude pour aller vers le global et déconstruire les systèmes en allant chercher l'étude de cas, en allant chercher la trajectoire individuelle, etc. Et c'est la juxtaposition, la mise en perspective de toutes ces petites unités qui permet d'avoir une vision du global. Mais effectivement, en France, je pense que c'est d'autant plus le cas qu'il faut se référer à l'histoire du système universitaire français, qui est un système de connaissances et de savoirs, de classification, etc., très, très, très strict, qui avait besoin de trouver des grandes vérités pour le roman national, etc. Et aujourd'hui, notamment les recherches sur l'esclavage, sur les formes de dépendance, sur la race, etc., ça a complètement renversé notre approche. On part du cas pour aller vers le global et non plus l'inverse. On détruit les classifications en allant chercher ces particularités, ces particularismes.
Alan pourrait être un des personnages d'un de vos documentaires, mais Sadaf pourrait être aussi un objet d'étude parce qu'elle a connu la guerre en Iran.
Oui, exactement. Ben, j'avais 5 ans quand la guerre a commencé, Iran-Irak. Et donc, ça a continué 10 ans. Donc, presque toute mon enfance s'est passée dans la révolution et ensuite la guerre. Oui, c'était très effrayant.
Et donc, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui de cette période-là dans les cours d'histoire en Iran?
On voit plus, on passe par global à l'intérieur. Je pense qu'il manque encore beaucoup de détails sur tout ce qui s'est passé et surtout comment nous sommes influencés par la guerre. Je pense qu'il n'y a pas ni d'études ni de films, justement. Il y a toujours, on parle toujours des gens qui sont décédés, évidemment, des martyrs, on peut dire. Mais on ne parle jamais des gens qui sont vivants et qui ont encore... Par exemple, quand je suis venue en France, je me suis baladée à Marseille et il y avait le jour où il y a un grand son, comment on dit, sirène. Je pense que c'est le même jour où il y avait annoncé la guerre mondiale ou la fin de la guerre en tout cas. Et moi j'ai eu très très peur parce que j'avais l'impression que la guerre a annoncé. Après tant d'années, ça existait encore, ça existe toujours, cette peur.
Mais... il vaut mieux que ce soit les historiens qui prennent en charge cette écriture de l'histoire ou il vaut mieux aller consulter un psychologue?
Peut-être les deux. Non, je pense les deux. Ou aussi les sociologues, politologues. Moi, je pense un peu tout, hein, non? Comme ça, on peut avoir une image complète.
Nous accompagnons dans la rue Sadaf Orouri, une des participantes à l'atelier « Produire au Sud » proposé dans le cadre du Festival des Trois Continents, festival qui se déroule à Nantes jusqu'au 1er décembre.
Aujourd'hui, la mémoire est devenue un sujet à part entière des études historiques, c'est-à-dire considérer la mémoire comme, non pas comme une pure fiction, mais comme un fait, comme quelque chose de performatif et de structurant pour la société. C'est exactement le même cas qu'on rencontre. Alors moi, je reviens toujours à mon cas d'étude avec les populations descendantes d'esclaves, alors soit dans les Amériques espagnoles, soit dans la Caraïbe ou même sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. On s'aperçoit que la mémoire est structurante pour l'identité, pour les identités, pour les rapports identitaires, etc., les rhétoriques identitaires. Il ne s'agit pas de dire, mais écoutez, ce que vous dites, c'est faux, ou de dire c'est fantasmé, mais de comprendre pourquoi c'est important et comment ça vient structurer le quotidien, etc., et le rapport des gens à ce qui les entoure, à leur hiérarchie sociale, à leur hiérarchie ethnique, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de considérer la mémoire comme un véritable sujet d'étude, quoi. Ne pas dire d'un simple revers, un peu positiviste, etc., de dire non, c'est de la bêtise, etc., c'est faux, ça ne sert à rien, mais dire voilà, si c'est raconté de cette façon-ci, de cette façon-là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une explication, et ça vient justifier quelque chose, légitimer quelque chose, combler un vide, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus, quoi.
Pas mal ce garçon.
Très très bien. On peut dire que tous les Français sont comme ça.
Pour tous.
Presque tous. Non,
il faudrait que tous les Français lisent un peu plus, quoi.
Moi, j'ai appris à lire ici. Je pouvais lire un livre parce que j'ai étudié en France. Donc, un livre par jour, parfois, les samedis et dimanches, donc de livres. C'est ce que j'ai appris ici. Ouais.
Alors que nous, à l'université, on ne lit jamais les livres en entier. On lit le début et la fin, et après, on fait croire qu'on l'a lu, quoi.
C'est normal. À l'université, on préfère de s'empirer, mais après, tu vas voir, ça va te manquer, et puis tu vas...
Ouais. Et ça sert à quoi d'écrire des abstracts?
Ça sert justement à ça. C'est... Après, il faut étudier l'institution universitaire et comprendre à quoi sert l'abstract. Ça permet aux gens de faire croire qu'ils ont tout lu et qu'ils sont au courant de l'actualité scientifique. Voilà à quoi ça sert.
Margot, tu es une personne essentielle de l'ombre, parce que tu montes et tu démontes.
Oui, exactement. Je fais du montage d'expositions. Donc j'installe les expositions qui ont lieu dans le cadre d'être au continent.
Mais c'est fini, là.
Le montage, oui. Maintenant, il va y avoir le démontage à la fin, forcément.
T'as une semaine de vacances, là.
Exactement. C'est ça.
Est-ce que tu vas voir des films?
Pas trop. Je pense pas.
Tu n'aimes pas le cinéma?
Pas trop, en plus.
Comment c'est possible de ne pas aimer le cinéma?
C'est dommage, hein, bah, il faut y aller et puis il faut commencer par les films qui sont plus sympathiques et puis après, parce que ça ouvre hein, des portes et puis ça change la routine de la vie, je crois. Il faut aimer, il faut trouver aussi du temps, mais je pense que c'est pas mal quand même, il faut commencer une fois par mois, oui, au moins.
Oui, je sais que c'est une erreur de pas aller au cinéma ou de pas trop m'y intéresser, mais je vais résoudre le problème, peut-être.
Comment tu t'imagines la vie d'une jeune fille à Téhéran?
Je l'imagine pas trop. C'est vrai que c'est loin, c'est inconnu, c'est je sais pas du tout.
De même, très exotique comme espace, mais je pense. Difficile comme toutes les conditions féminines de la planète, mais peut-être pas autant que le laisserait présumer la vision négative que nous avons de l'Iran. Moi, je sais que j'ai eu certains camarades qui ont voyagé dans cette zone et qui m'ont donné des points de vue un peu contradictoires avec la diabolisation du régime, etc. Parce que derrière cette diabolisation géopolitique, il y a toujours la société qui prend ses marques et qui trouve des moyens de contourner les interstices, etc., etc., et qui s'adapte. Donc je pense que derrière le carcan du système, de la société, de ses normes, il y a des modes d'organisation des femmes et des jeunes filles à Téhéran.
je suis contente alors que tu penses comme ça. Bah, il y a 30 ans, je pense que un peu plus, les Français ils sont venus beaucoup en Iran et puis l'inverse. Et au fur et à mesure, c'est beaucoup plus fermé qu'avant. Mais on voit de plus en plus ces dernières années les voyageurs et les touristes, heureusement. Oui, je pense que il faut penser comme ça parce qu'on est des gens comme vous. On a des envies, on a des espoirs, etc. Bah, surtout les femmes en Iran, ils travaillent beaucoup et ils essayent de changer leur situation. Et ça bouge au fur et à mesure. Je suis certaine qu'on va changer des choses.
Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à vivre pour une jeune fille en Iran ?
C'est très difficile à dire parce que c'est vraiment général, mais il y a un peu de tout. Parce que quand il y a des limites dans la société, après ces limites, on les rencontre aussi à la maison parce que les parents ne veulent pas avoir des problèmes dans la société. Donc finalement, c'est comme des chaînes. C'est vraiment dur à dire qu'est-ce qui ne va pas, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, si on parle de l'égalité des femmes, donc, ça existe aussi partout dans le monde entier, mais on le rencontre beaucoup plus en Iran, par exemple. Donc, il faut beaucoup de travail.
Et qu'est-ce qu'il y a de difficile à vivre pour une jeune Française ?
À la fois, il y a peu de choses, je pense, comparées à certains endroits dans le monde. Et en même temps, dans la société aujourd'hui, en France, c'est tellement compliqué parce que l'image des femmes, elle n'est pas si simple et si libre qu'on pourrait le penser. Et que la condition des femmes aujourd'hui en France, dans une grande ville développée comme culturelle, mine de rien, il y a toujours des problèmes et des libertés qui sont bafouées.
Et concrètement, ça se traduit ?
Dans plein de domaines de la vie courante, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, on sent bien que la frontière entre les genres, elle est encore très 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 marquée. Dans des métiers qui sont considérés des métiers d'hommes ou des métiers de femmes, et c'est persistant aujourd'hui, dans des cas pratiques, c'est ultra courant. Il y a des métiers qui sont plus difficiles d'accès, ou alors, une fois qu'on y a eu accès, il y a des réflexions qui sont constantes autour de la capacité, du savoir, des compétences. Voilà. Et puis dans le quotidien, autre que dans le travail et que dans l'environnement un peu comme ça, et dans la rue, par exemple, la rue, c'est quand même un espèce de sujet qui est... Même en France, quoi, encore aujourd'hui, en France, dans une grande ville, la rue, ça reste un problème, je pense, pour les femmes et l'espace public en règle générale. Il faut pas se leurrer, quoi, faut pas le cacher, c'est un fait. Et je pense que quand on est une femme, dès qu'on sort de chez soi, on y pense et pas juste le soir très tard. Je pense que c'est tout le temps et que c'est quelque chose qu'on apprend en plus très jeune. C'est conscientisé en fait très très jeune. C'est une espèce de trucs qu'on nous donne dès l'enfance, quoi. Quand tu sors, bah, tu fais attention, il faut se méfier de tout, il faut regarder partout. Et puis plus tard, en fait, c'est tellement ancré et c'est tellement présent aussi que ça fait partie de la vie, quoi, d'une femme, jeune ou moins jeune, aujourd'hui.
Il faut se méfier des micros.
Peut-être.
Vous savez où est le problème ? Parce que nous, à cause de toutes ces oppressions que nous avons, finalement, on sent plus... La sensation est partie. On a l'impression que, bon, ça existe, il faut vivre avec. Donc, je ne sais pas comment on dit en français, nous sommes plus « aware », on est plus... on le sent plus. C'est ça. Et d'autres choses, que si vous voulez faire une démonstration, par exemple, vous avez le droit de le faire. En Iran, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, voici la différence.
C'est une grosse différence, quand même.
L'Iran, quand même, c'est une société très complexe. D'un côté, on n'a pas le droit, les femmes. De l'autre côté, on a beaucoup de droits. Ça arrive quoi que ce soit dans la rue, en tant que femme, si vous dites à un homme « Oh, j'ai un problème », ça résolue tout de suite. Vous avez un problème avec la voiture, vous êtes une femme, vous sortez, il y a des hommes qui et aussi des femmes qui essayent de vous aider. Donc c'est très complexe en même temps, mais peut-être on peut dire que c'est la loi qui n'est pas pour les femmes.
Distribué en Iran, votre film, non?
Non, parce que ça parle de tabou et surtout la sexualité féminine. Donc c'est un sujet tabou, mais très important en même temps à aborder. Je pense que c'est un film qui me tient encore, c'est un sujet qui me tient encore et j'espère de pouvoir le tourner très bientôt.
Et vous vous exposez à quoi en le tournant? Vous prenez des risques?
Non, c'est-à-dire que je ne veux pas dépasser les limites, si vous voulez, parce que je ne veux pas avoir des problèmes. Je veux continuer à travailler en Iran. Mais je pense que quand même, il y aura pas menaces, mais des notes. Des petites notes pour faire attention prochainement de ne pas tourner des films et des sujets qu'il ne faut pas.
Quelles sont ces limites que vous vous êtes fixées?
Les limites sont plus politiques en Iran, je pense, plus que d'autres choses, et puis surtout religion.
C'est pas lié, par exemple, à la nudité?
Bien sûr, oui. Mais ça, c'est-à-dire que c'est hors de question, parce que quand vous voulez choisir des actrices, surtout les actrices, ils travaillent là-bas, ils vivent en Iran. Je ne veux pas poser des problèmes pour eux parce qu'ils veulent continuer à travailler pareil comme moi en Iran. Il n'y aura pas de nudité, ça va être comme les autres films iraniens, sauf que le sujet est un nouveau sujet en fait. On n'a jamais travaillé sur ce genre de problème des femmes.
Et vous pensez quoi de ces femmes qui posent nues pour défendre la cause des femmes?
Moi je trouve que c'est très courageux. Moi je trouve que mon corps m'appartient, donc on peut faire tout ce qu'on veut, même si on veut faire du mal à soi-même, on peut faire quoi que ce soit, c'est notre choix. Donc je pense que c'est courageux. Après, chacun sa façon, et je le respecte complètement. Moi, je fais autre chose, mais c'est un lien. Oui.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public nantais?
C'est très sympathique parce que, pour plusieurs raisons, je commence à découvrir la ville qui est magnifique. Et j'espère que j'aurai le temps de faire un tour profond au centre-ville dans ces prochains jours. Et rencontrer des gens qui sont tellement sympathiques, qui ont beaucoup de connaissances. Et je suis un peu triste parce que je vois que mon pays, qui est très très beau, est tellement inconnu pour vous ici. J'espère que vous pourrez venir en Iran, comme moi je viens ici, que ça me fait tellement plaisir, que ça soit aussi un plaisir pour vous.
Merci à Sadaf Forouri, qui suit en qualité de réalisatrice l'atelier Produire au Sud, et merci à
Alan,
Margot,
pour leur libre participation à ce reportage enregistré à Nantes dans le cadre du Festival des Trois Continents. Festival qui se déroule jusqu'au 1er décembre.
En fait, je pensais que ça pourrait être bien de dire à tel point je suis triste de ce qui s'est passé à Paris. Ce qui m'a touchée énormément, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, j'étais très inquiète pour mes amis, etc. Et je pense que je dois dire que je suis iranienne, mais ça m'a touchée aussi au corps et je pense que ça a touché aussi beaucoup d'autres iraniennes. Aussi d'autres personnes dans le monde. Je suis vraiment triste pour cet événement. J'espère que ça sera vraiment la dernière fois et puis on n'oubliera jamais.